Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello, c'est Laetitia.
Salut, c'est Lucille.
Cette semaine, on a décidé de se pencher sur un sujet qui fait débat. La littérature pour jeunes adultes ou YA sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram, un peu partout. Moi, à la base, je pensais que c'est la littérature pour jeunes adultes, c'était Twilight, Hunger Games, Le Labyrinthe. Mais ça, c'est probablement parce que je suis un peu trop pure pour ce monde, parce qu'en réalité, de plus en plus dans la littérature pour jeunes adultes, il y a des trucs qui sont très, très, très problématiques. Pas dans le sens où ces livres sont nuls, quoique, mais plutôt dans le sens où la représentation des histoires d'amour et des femmes en général sont catastrophiques. On parle de sexisme, de misogynie, de violence conjugale banalisée, de zéro notion de consentement. On aurait pu parler d'After, qui est quand même un champion toute catégorie dans la catégorie, mais on a choisi de parler de Beautiful Disaster. Lucille, tu as lu le livre, tu me racontes ?
C'est ça, bah donc Beautiful Disaster de Jamie Maguire, c'est un livre qui est sorti en 2020 en France, et c'est l'histoire d'Abby, une jeune fille un peu coincée au début du livre en tout cas, qui porte des petits cardigans, c'est très bien précisé, et de Travis, le beau gosse de l'université qui fait aussi des combats clandestins dans les sous-sols du campus, pour arrondir ses fins de mois, et le duo fait un pari, la jeune fille perd, elle devra passer un mois à vivre avec Travis, chez lui.
Déjà moi j'ai une question, qui sont ces gens qui font des paris sur leur logement, sachant qu'à la base elle paye quand même pour avoir une chambre étudiante.
C'est ça.
C'est quoi l'idée de passer un mois dans la chambre d'un mec dont elle dit clairement qu'elle a pas envie de faire quoi que ce soit avec
lui. Et en plus, il a pas de couchage supplémentaire, donc c'est carrément dans son lit. À ce moment-là du livre, ils sont amis.
Bien sûr.
Très très vite, on n'arrête pas de dire elle a pas envie de lui, elle a pas envie parce que c'est un womanizer qui se tape donc plein de meufs. Et du coup, elle lui dit, en fait, ils mettent en place une sorte d'amitié où malgré tout, ils font quand même plein de trucs ensemble et elle dort dans son lit.
Moi, j'ai pas beaucoup d'amis comme ça, hein, je t'avoue, je passe pas un mois à dormir dans le lit d'un pote. Surtout que bah, si vraiment c'est un mec à femme, un espèce de queutard, où est-ce qu'il les emmène toutes ces conquêtes ?
Alors, dans le fauteuil du salon. C'est vraiment
confortable.
C'est vraiment expliqué dans le bouquin. C'est pas le canapé, c'est le fauteuil du salon. Et donc, elle l'entend même plusieurs fois baiser avec des meufs, en particulier dans des plans à trois a priori épiques.
Les joies de la colocation.
C'est ça. Mais c'est en fait leur amitié, elle vient définir le fait qu'elle n'a donc pas envie de sexe avec lui. Et vraiment, jusque très très tard dans le livre, elle arrête pas de dire on est amis, elle le repousse même carrément. Lui aussi est un petit peu entre deux là-dessus. Et malgré tout, régulièrement, il vient forcer, il vient faire du forçage physique. J'ai un petit extrait si tu veux.
Avec plaisir.
Alors donc vraiment, des pages avant, ils arrêtent pas de préciser, elle arrête pas de lui dire qu'elle ne veut surtout pas coucher avec lui. Et là, elle se change, elle vient de prendre une douche. Je descendis la fermeture de ma robe et la laissa tomber sur mes chevilles, puis je défis ma coiffure et secouai la tête pour libérer mes cheveux. Un peu sexy après ta douche. Enfin, après, avant de prendre ta douche. Je venais de sortir un t-shirt quand Travis se plaqua contre mon dos et m'enlaça. Mais ça va pas, tu m'as foutu une de ces trouilles. Il laissa courir ses mains sur ma peau. Le geste était lent, délibéré, différent. Mes yeux se fermèrent lorsqu'il me serra contre lui et enfouit son visage dans mes cheveux, contre ma nuque. Je sentais sa peau nue contre la mienne et il me fallut un moment avant de protester. Il écarta mes cheveux et laissa courir sa bouche sur mon cou, puis d'une épaule à l'autre et défit mon soutien-gorge au passage. La douceur tiède de ses lèvres était trop agréable pour lui demander d'arrêter. Un léger gémissement monta de ma gorge quand il se plaqua contre mes fesses et je sentis à quel point il me désirait. Je retins mon souffle, deux fins morceaux de tissu, voilà la seule chose qui nous empêchait désormais de franchir le pas et de faire ce que j'avais refusé à peine quelques instants plus tôt.
Et on est très bien sur la notion de consentement du coup, parce que le mec rentre dans la salle de bain pendant qu'elle est en train de se doucher, il se colle à elle, il la déshabille sans lui demander quoi que ce soit, alors qu'elle a dit plusieurs fois avant qu'elle ne voulait pas.
C'est ça, mais en fait c'est le fameux truc de la fille dit non jusqu'à ce qu'elle finisse par dire oui.
Oui, parce qu'elle a pas l'air d'être très contre au final, parce qu'elle dit beaucoup dans le livre qu'elle n'a pas envie, mais au final, est-ce que c'est vrai ?
C'est en tout cas le doute et à fond là-dessus, on n'est pas très sûr. Alors souvent elle se met en colère contre lui, parce que du coup quand il ramène des meufs à l'appart, elle se prend un peu la douche froide, donc elle est un peu en colère. Régulièrement leur relation d'ailleurs est méga toxique, c'est-à-dire que elle se met en colère pour ces trucs-là et après ils se parlent pas pendant une demi-journée. Et lui se met en colère pour plein de raisons. Travis, c'est quelqu'un qui est extrêmement colérique et même assez violent. Son personnage qui fait du free fight dans des campus est raconté, on l'appelle Mad Dog, et vraiment, il défonce les mecs. C'est écrit, il y a plus de scènes de combat et de violence dans le livre que de scènes de sexe ou de séduction. C'est même assez pénible à lire. Et j'ai encore un petit extrait de Travis qui fait une crise de colère. Travis qui, du coup, est à cran pour une raison X ou Y, ce qui arrive régulièrement. Il a pété un câble, je t'assure. Il a arraché les draps de son lit et les a jetés, ainsi que les oreillers. Il a balancé son poing dans la glace de la chambre, a donné tellement de coups de pied dans la porte que les gonds ont pété.
Le contrôle, la gestion de la colère, tout ça.
Et ça, c'est... on s'en fout. Enfin, je veux dire, vraiment, il y a cette scène-là qui arrive. La meuf comprend pourquoi il est en colère. Il balance un petit « je suis désolée » de temps en temps, mais en réalité, ça passe crème, quoi.
C'est horrible parce que ce genre de livre, ça banalise énormément de choses, que ce soit le fait que, oui, les meufs, elles disent non, qu'elles n'ont pas envie de coucher avec telle ou telle personne, mais au final, quand elles sont mises devant le fait accompli, elles trouvent quand même ça sexy. Ça banalise la colère et on part du principe que « je suis désolée », ça suffit à excuser beaucoup de dégâts matériels, on va dire. Et encore heureux que c'est juste des dégâts matériels, mais ça peut être traumatisant pour plein de gens. J'ai eu des cas de films et de livres où la meuf se fait légèrement bousculer et où si le mec dit qu'il est désolé, bah ça va, tout est oublié.
Ça arrive aussi dans le livre. À chaque fois qu'un mec regarde Abby ou s'approche d'elle, il vient lui défoncer la gueule, c'est-à-dire qu'il vient littéralement leur péter le nez. Et il arrive un moment où elle danse avec un garçon sur une piste de danse, elle a décidé qu'elle voulait le faire, le mec est pas lourd particulièrement. Il lui donc donne un coup de poing et elle est juste à côté et elle tombe au sol. La scène est quand même aussi assez violente et elle se met un peu en colère, elle est quand même un peu fâchée, mais il a encore une fois ce petit désolé et ça passe encore une fois tranquille.
Donc en plus, c'est visiblement sa propriété, elle n'a pas le droit de s'approcher de qui que ce soit. C'est un trope qui est hyper courant en fait au final dans les livres pour jeunes adultes et même dans ce qu'on appelle le mummy porn comme Fifty Shades of Grey. Parce que ce soit dans After, dans Fifty Shades of Grey ou là dans Beautiful Disaster, c'est toujours les mêmes profils. C'est la meuf un peu propre sur elle, un peu BCBG, qui va rencontrer le bad boy qui a des goûts un peu particuliers, qui a un gros problème avec la violence et le consentement. Et qui n'accepte pas qu'elle puisse être le centre de l'attention de qui que ce soit.
Et alors lui, Travis spécifiquement, il a un truc aussi spécifique, c'est qu'il supporte pas qu'elle s'habille un peu sexy. Mais genre, même pas un peu sexy. À un moment, il s'apprête à aller à une soirée. Elle achète une tenue avec sa meilleure pote. Hyper excitation, trop contente. Elle achète une belle tenue. Abby veut donc porter sa robe. Je cite... Poulette le prend pas mal, mais je ne peux pas t'emmener à cette soirée habillée comme ça. À la soirée de ma fraternité en plus, c'est que je vais me battre dans les 5 premières minutes, là.
Ah
et
oui.
Régulièrement, il lui demande de se changer. Et il y a même une fois carrément où il lui dit « enfile un jean et un t-shirt, on part pas tant que t'as pas enfilé un jean et un t-shirt ».
C'est bien, c'est rassurant parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, le contrôle des vêtements de son ou sa partenaire, ça fait partie des choses qui sont considérées comme une forme de violence conjugale. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est très banalisé, mais en théorie, c'est considéré comme un gros red flag dans les relations d'avoir un partenaire qui contrôle ce que tu veux porter.
Bien sûr, et moi, j'ai trouvé ça vraiment compliqué à lire même. Mais ça, pour le coup, les vêtements, ça passe aussi. C'est-à-dire qu'elle comprend que son mec, en fait, il tape tellement tout le monde qu'à un moment, pour éviter qu'il tape des gens, elle accepte totalement ça. Et donc, elle range sa robe qu'elle ne mettra donc jamais. Et en plus, donc, ils restent ensemble, évidemment. Après, ça finit pas mal. Donc ça va devenir une habitude dans leur couple. Clairement, il n'y a pas débat, quoi.
Oui, ça commence mal et on sait que ça va être sur la durée, quoi.
Bien sûr. Et puis, il y a un autre truc assez problématique, c'est qu'il y a du sexe sans capote. Leur première fois, donc Abby est bien sûr vierge. C'est un classique, c'est un trope assez classique. Donc Travis, lui, baise avec plein de meufs. Il a un ce qu'on appelle un body count très très élevé, même dans le livre lui-même. Et du coup, il a une sorte de boîte à capotes dans sa table de nuit. Et pour montrer qu'il aime vraiment Abby, à un moment, il jette toutes ses capotes. Mais du coup, donc ce qui est extrêmement logique, et donc quand ils finissent par avoir envie de faire l'amour, il n'y a plus aucun préservatif dans l'appartement. Qu'est-ce que le couple décide ? Évidemment, bah donc de le faire sans protection. Et là, la scène est un peu bizarre, c'est-à-dire que d'un seul coup, Abby s'arrête et elle se met à compter à voix haute. Et donc elle utilise la méthode Ogino pour décider que c'est tout à fait ok de baiser sans capote à ce moment-là.
Eh ben écoute, pourquoi pas ? c'est bizarre parce que ça, pour le coup, c'est pas dans le film.
Oui.
Moi, du coup, je me suis penchée sur le cas du film qui est dispo sur Prime Video. C'est visiblement beaucoup moins trash que le livre, d'après ce que tu m'en dis, parce que outre le fait que c'est extrêmement mal réalisé, que l'actrice principale n'a pas beaucoup de charisme et qu'elle joue très mal, et qu'il y a Dylan Sprouse qui est globalement un bon acteur, qui est très beau, qui est plutôt pas mal à regarder. On commence le film sur une accumulation de clichés. C'est-à-dire qu'en moins de 4 minutes, on a la jeune adulte qui décide de quitter son père parce qu'il voulait qu'elle soit championne de poker pour payer ses dettes. La meilleure amie qui aime les bad boys et qui l'emmène dans une soirée secrète parce qu'il faut qu'elle se décoince un petit peu. L'héroïne qui ne veut pas rester parce que c'est pas son délire, les soirées secrètes, surtout qu'il y a un combat de boxe. Et là, bam, au moment où elle se retourne, elle se percute le fameux beau gosse. Et là, d'un seul coup, il y a des petites étincelles un peu partout, des petits cœurs qui volent. Pas de façon littérale, mais ça aurait pu être le genre de choses qu'on aurait vu dans le film, tellement c'est cliché. Elle termine d'ailleurs la scène avec plein de sang sur son pull parce que elle était un peu trop proche du combat. Et du coup, quand il casse le nez à son adversaire, et ben elle se prend une faciale de sang.
Alors je l'avais pas vu comme ça, mais effectivement c'est pas tout à fait faux parce qu'en fait il vient salir son beau cardigan.
Voilà le fameux cardigan. Par contre, j'ai pas l'impression que dans le film il y a un moment où il laisse entendre qu'elle soit vierge. Elle a l'air d'avoir une sexualité qui est plutôt. Elle a jamais d'autres partenaires. Elle flirte vite fait avec un étudiant en médecine qui sert un petit peu de caution en mode oui, regardez, je suis amoureux. Le mec gentil, un triangle amoureux très très rapide, on va dire en tout cas dans le film. Mais à côté de ça, il y a une scène qui m'a beaucoup dérangée, c'est justement après ce fameux combat de boxe quand elle se masturbe sous la douche. En repensant à toutes les scènes de violence, parce que c'est bien connu, les scènes de violence et les hommes qui se battent, c'est quelque chose qui est très excitant.
Alors, ça n'existe pas dans le livre. Il y a plein de scènes qui ont été rajoutées dans le film pour venir dire qu'elle était OK pour le sexe, par exemple, pour venir donner son consentement à l'avance, qui n'existe donc pas du tout dans le livre, qui viennent la sexualiser aussi, ce qui n'est vraiment pas du tout dans le livre. La meuf est vraiment en dehors de ça totalement, à part quand il s'approche trop d'elle et que là, du coup, son corps s'enflamme.
Oui, parce que dans le film, il y a cette scène qui est absolument mortifiante, où elle vient de passer donc la première nuit où elle dort dans son lit, et où en fait, dans son sommeil, elle commence à le masturber parce qu'elle pense que son pénis est un chat. Et que du coup, elle joue avec.
Ce qui n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens. Je me suis rarement sentie autant physiquement gênée devant une scène. Je sais pas si le but c'était d'en faire quelque chose de sexy ou de ridicule, mais en tout cas c'est plus la deuxième option que la première.
Moi je pense que c'est plutôt une comédie, parce que du coup ils avaient conscience que le livre était extrêmement dark, extrêmement violent. D'ailleurs techniquement je trouve que le personnage de Travis, autant dans le livre il fait très peur, il est censé être très tatoué, avoir le crâne rasé, être très impressionnant et faire peur à tout le monde. D'ailleurs globalement il fait peur. Je crois que dans le film il est beaucoup plus sympa et même limite drôle, même dans ses combats.
Oui, bah c'est un peu l'impression que j'ai eu aussi dans le livre. Moi, je l'ai trouvé relativement sympathique, un peu problématique, mais pas plus que qu'un Barney Stinson, par exemple, dans I Met Your Mother, ou un Han Solo dans Star Wars. C'est des références un peu datées, certes, mais voilà, je l'ai pas
il
trouvé.
Il reste séduisant, quoi.
Voilà, il reste séduisant. Mais quand tu m'as raconté le livre, moi, j'ai en fait eu l'impression vraiment de me retrouver à l'époque où j'ai lu les bouquins de la saga After. Parce que c'est pareil, on a un héros, donc une héroïne qui est vierge, un héros qui a un body count assez impressionnant, qui a un gros problème de violence, mais ça va parce que c'est un poète. C'est un poète, donc c'est qu'il a une âme sensible au fond.
Au fond de lui, exactement. Voilà. Alors, on parle de body count depuis tout à l'heure. C'est souvent dit de façon négative sur les réseaux. C'est dit de façon négative pour les filles de manière générale. Ça n'est pas bien d'avoir eu plusieurs partenaires avant sa belle relation. Mais en réalité, nous, on le compte pas du tout comme ça. Quand on en parle, c'est en général parce que dans le livre lui-même, le personnage couche avec vraiment plein de filles.
Oui, c'est vrai que quand, dans le body count, quand on parle d'une femme, c'est un peu ce dont on parlait dans notre épisode sur les légendes urbaines du sexe. C'est associé aux femmes à de petites vertus qui vont se retrouver avec un vagin énorme parce qu'elles ont eu trop de partenaires. Tandis que pour les mecs, c'est vraiment le côté don juan, grand séducteur. Mais là, c'est vrai que dans ce genre d'œuvre, les mecs revendiquent généralement d'avoir eu plein de partenaires et de très peu les respecter au final, parce que dans le film, il y a une scène où Travis couche avec une Française.
C'est vrai.
Voilà, qui, au lieu de lui laisser son numéro de téléphone dans la chambre, va le donner à Abby en lui disant « Tiens, tu donneras mon numéro de téléphone à Travis. » Donc, elle le lui donne en tant que bonne colocataire qu'elle est. Et lui, il le déchire, il le jette. Et il dit « Une femme qui te laisse son numéro de téléphone après avoir couché avec toi, c'est qu'elle veut marquer son territoire. »
Oui, et non pas créer possiblement une relation.
Une relation, ou une connexion, ou même une amitié, sait-on jamais.
On sait pas. Mais il y a très très peu de respect pour les femmes en dehors d'Abby et de Travis dans l'histoire. Il y a très très peu de respect, moi j'ai noté. En fait, le livre est écrit à la première personne d'Abby. Et j'ai noté, à chaque fois qu'Abby croise une meuf, même une qui n'a pas couché avec Travis, il y a un slut-shaming qui est fait, qui est incroyable. J'ai noté donc comment on appelle les filles de manière générale dans le livre. Donc deux blondes pulpeuses, des vraies sangsues, une belle brune à longs cheveux et jupes très courtes, la bimbo, ses connasses de sororité ou encore la connasse à MST. Vraiment, tout le bouquin, Abby parle extrêmement mal des femmes.
On est à fond dans la sororité, le féminisme.
Bah, surtout qu'elle a une meilleure amie qui est là vraiment présente et pareil, qui a un personnage qui ne sert à rien, mais qui est un petit peu sauvé de cette méchanceté.
Ah bah dans le film, c'est exactement pareil, parce que à part se disputer et se réconcilier avec son mec, qui est le meilleur ami visiblement de Travis, ou son cousin, je n'ai pas exactement compris.
C'est son cousin.
Voilà, son cousin. On ne sait pas exactement à quoi ce couple sert. Voilà, on apprend le prénom de la fille en question à la toute fin du film. Elle s'appelle America, voilà. On le découvre vraiment dans une des avant-dernières scènes du film. Avant ça, elle n'est pas nommée, donc le film ne passe pas du tout le test de Bechdel. C'est une catastrophe.
Moi, il y a un truc que j'ai regardé aussi, c'est quand même les avis sur Internet du livre, en particulier sur Babelio. Alors, le livre a quand même 4 sur 5, ce qui est beaucoup, mais il a surtout plus de 1000 notes récoltées. C'est quand même un best-seller, c'est quand même un livre qui s'est bien vendu. Pourtant, il y a quand même des personnes qui viennent apporter des avis dissonants et qui viennent dire que, par exemple, que c'est un lien destructeur, toxique, extrême, porté par des personnages devenus détestables. Il y a des personnes qui parlent aussi d'un personnage qui est impulsif, hyper violent, alcoolique. C'est un truc dont on a pas parlé, mais dans le livre, il y a deux aspects qui sont extrêmement problématiques aussi et vite toxiques. C'est que les personnages boivent énormément, que souvent les scènes un peu de sexe ou un peu sexy, ils sont bourrés. Alors soit lui, soit elle, soit les deux. Et c'est des personnages qui sont joueurs, c'est-à-dire que elle, dont joue au poker, a effectivement ce problème avec les paris. Et donc dès qu'elle fait un pari, elle va jusqu'au bout, elle va vraiment, même si c'est absurde, même si ça n'a aucun sens et même si c'est problématique. Dans le livre, en l'occurrence, comme elle fête son 19e anniversaire, on lui propose de boire 19 shots de tequila. Et comme c'est une joueuse, elle va jusqu'au bout, donc pas très loin du coma éthylique. Le personnage de Travis, il est un peu pareil, c'est-à-dire que quand il se bat, il gagne. Et donc du coup, tout ils ont des personnalités assez compliquées à appréhender, quoi.
Une des critiques que j'ai beaucoup vues sur ces livres, enfin une critique ou pas dans le sens négatif, mais dans le sens ça peut pas être si catastrophique que ça, c'est que les gens ils disent oui, mais c'est écrit par une femme. Donc, c'est que c'est des choses dont elles ont dû être témoins, c'est des choses qu'elles doivent apprécier. Est-ce que le fait qu'un livre soit écrit par une femme, ça veut automatiquement dire que les comportements qui sont mis en avant dedans sont OK?
Pour moi, il y a vraiment des choses qui font partie aussi d'un cahier des charges. C'est-à-dire que c'est pas forcément écrit par des auteurs qui ont tout à fait la liberté d'écrire ce qu'elles veulent. Et donc, du coup, la fille vierge, le bad boy, c'est quand même des choses qui sont des tropes qui sont importants dans ce genre-là. Le fait que ce soit un vrai bad boy, vraiment violent, et que la fille l'empêche d'être violent presque, il vient le sauver, c'est hyper important pour ces trucs-là. Moi, quand j'étais jeune, je lisais des romans Harlequin. Et on sait que, enfin, je lisais ceux de ma mère et de ma grand-mère. En particulier, les Rouges Passions, où il y avait pas mal de sexe. Et là, par exemple, un peu comme les téléfilms de Noël, il y a évidemment des choses qui sont des choses obligatoires auxquelles on s'attend à ce que ça arrive, c'est-à-dire une scène de sexe dans les 100 premières pages, et à la fin, ça finit bien, et ils se marient, ils ont des enfants, quoi.
Oui, puis ce qui est important de rappeler aussi, c'est que généralement, les autrices de ces livres sont des nanas qui sont très jeunes. Je crois que la jeune femme qui avait écrit After, elle avait sorti le premier livre, elle devait avoir 19 ou 20 ans. Et à la base, c'était une fanfiction sur les One Direction qu'elle avait écrit sur Wattpad, la fameuse plateforme où tu peux trouver toutes les fanfictions sur absolument tous les sujets de la planète. Et du coup, elle était très contente de voir que son livre avait été acheté par une maison d'édition, qu'il allait être adapté en film. Effectivement, quand t'as 19 ans, t'as l'impression que c'est un truc qui est incroyable. Mais effectivement, c'est plus elles vont être jeunes, plus leurs éditeurs, qui sont malheureusement souvent des hommes encore, vont pouvoir leur imposer des choses à ce niveau-là, rajouter des scènes, leur dire « il faut que ce soit plus sexy pour pouvoir toucher plus d'audience ». Et effectivement, on se rend compte que les éditeurs qui sont des personnes souvent plus âgées n'ont pas la même notion de ce qui peut être sexy ou non pour notre génération à nous et encore plus pour la génération en dessous de la nôtre. Donc ça a un impact.
Mais le but, c'est quand même de vendre des livres. Il y a sur ce genre de livres spécifiquement, souvent, il y a un groupe d'amis. L'homme principal a un groupe d'amis ou un groupe de frères. C'est le cas là, il a un groupe de frères. Et donc, du coup, il y a un livre pour chaque frère. Le but est de faire des sagas de 4, 5, 6 livres. Donc le but, malgré tout, au final, c'est quand même de vendre des bouquins et donc de faire parler, de créer un attrait, même s'il est malsain, pour l'univers de manière générale. Moi, je me suis tapé le deuxième livre de cette saga.
Le fameux, celui qui est écrit sous le point de vue de Travis.
Exactement, Walking Disaster. Alors, c'est très compliqué parce que c'est la même histoire que le premier, vraiment. Sauf que c'est du point de vue de Travis, c'est sorti un ou deux ans après. Et donc, un ou deux ans après, l'autrice s'est rendue compte que peut-être son premier bouquin était un peu problématique et que hyper violent, hyper dark, et que Travis n'avait pas l'air très sympa. Donc, le livre vient le réhabiliter. En fait, on a Travis qui est amoureux depuis le départ. Les scènes de violence n'existent plus ou sont hyper, passent très 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 rapidement. Évidemment, il se voit pas faire les choses, donc du coup, elles ne sont pas racontées.
Oui, c'est du Corée, quoi. C'est...
Exactement. Ça m'a rappelé un beaucoup moins fun, le quatrième tome de la saga 50 nuances de Grey, où c'est le personnage de Grey qui raconte l'histoire et, en l'occurrence, la particularité de ce livre, c'est qu'il parle souvent à la première personne de son pénis.
Oui, ça m'avait beaucoup marqué, mais j'avais trouvé que, pour le coup, le personnage était assez peu complaisant envers lui-même. C'est-à-dire qu'il faisait des choses, mais il disait que c'était pas des comportements qui étaient normaux. Pareil, on sentait un petit peu que justement le livre avait été très critiqué parce que c'était misogyne et que du coup l'autrice essayait de se rattraper en disant oui voilà le personnage c'est un gros connard, mais il en a conscience, ça veut dire qu'il fait quand même une forme de travail sur lui.
Et puis, il y a quand même un côté divertissant. Là, je vous assure que pour Walking Disaster, si vous avez trouvé le premier problématique ou vous avez trouvé ça pas très sexy, le deuxième bouquin est franchement chiant. Parce que du coup, moi, je les ai enchaînés en plus. Et la même histoire racontée une deuxième fois, déjà que l'histoire est pas passionnante, faut vraiment avoir envie de se le taper.
Ah, c'est vraiment quelque chose qui est ultra populaire dans la littérature pour jeunes adultes en ce moment, le fait de faire des deux versions du même livre, une par le personnage féminin, une par le personnage masculin. Il y a eu le cas pour Twilight, il y a eu le cas pour After, il y a eu le cas pour Fifty Shades of Grey. Mais heureusement, dans la littérature pour jeunes adultes, il y a aussi parfois des livres avec des scènes de sexe qui sont bien faites et où il y a beaucoup de respect. Moi, j'ai notamment le souvenir, il y a quelques années, d'avoir lu un livre qui s'appelle Gone, de Michael Grant. C'est l'histoire d'adolescents qui se retrouvent, toute leur ville se retrouve coincée sous une espèce de bulle, et tous les adultes sont dématérialisés et rematérialisés à l'extérieur de la bulle. Donc forcément, c'est un peu comme Under the Dome de Stephen King, ou la série qui avait été adaptée. On suit les adolescents pendant plusieurs mois, voire quelques années, donc on les voit grandir. Et à un moment, il y a une scène de sexe, où en fait, t'es dans la tête de l'héroïne et où elle explique qu'elle ne veut pas d'une grossesse non désirée, étant donné qu'il y a déjà un des personnages qui est tombé enceinte dans la bulle, et que du coup, elle interrompt le début du rapport en disant au mec, attends, stop, on continuera pas si on n'a pas de capote. Et donc là, ils trouvent des capotes et ensuite, ils reprennent. Et j'avais trouvé ça assez chouette en termes d'explication de à quoi ça peut servir la contraception. Et pareil, dans quelque chose d'un registre qui est assez différent, mais dans les comics de Scott Pilgrim, le personnage de Ramona Flowers se retrouve donc dans un lit avec Scott Pilgrim. Ils sont en train de s'embrasser et à un moment, elle lui dit « J'ai changé d'avis, je n'ai plus envie de coucher avec toi ». Ce qui est très bien parce qu'on a très peu de représentations au final de femmes qui interrompent un rapport qui a déjà commencé. Lui, il lui dit « Ok, c'est pas grave, on peut juste se faire des câlins, moi ça me va très bien ». Encore plus rare, un mec qui ne s'énerve pas quand on lui dit non, tu n'auras pas de sexe. Et elle lui répond, c'est bien, je me garde le droit de rechanger d'avis un peu plus tard dans la soirée. Donc ça prouve qu'en fait c'est possible d'avoir des séquences qui sont assez sexy, sans parler de violence, sans parler d'absence de consentement, sans parler de contraception. Enfin, en parlant de contraception justement et en parlant de consentement. Donc je trouve ça vraiment dommage que ce soit si peu présent dans ce genre de livre.
Alors moi, je suis assez fan des livres de LG Chen, qui est une autrice qui... alors, c'est des gens qui sont généralement un petit peu plus âgés, donc qui ont entre 25 et 35, 40 ans, donc qui s'adressent aussi à un public un peu plus âgé. Et donc, il y a beaucoup, enfin, pas mal de scènes de sexe. C'est vraiment le but, globalement, c'est la romance avec pas mal de sexe. Et on trouve des scènes qui sont aussi assez intéressantes, où, par exemple, l'héroïne a ses règles. Ou d'ailleurs, globalement, le consentement est hyper important. Il y a aussi ces tropes, parfois, du bad boy, mais globalement, c'est pas un bad boy qui est dangereux, et la relation est assez vite gérée, de manière à ce qu'elle soit pas toxique. Donc, il y a vraiment moyen de trouver des livres, si on aime la romance, si on aime lire des scènes de sexe dans des livres, il y a quand même moyen de trouver des autrices qui écrivent des univers qui sont quand même beaucoup plus safe que là, en l'occurrence. Parfois, il faut chercher en dehors des best-sellers, et puis il faut surtout aller voir les avis sur Internet, faire le tri là-dedans, parce que du coup, même un truc qui s'est très bien vendu, bah, ça peut être assez problématique.
Ouais, n'hésitez pas à aller regarder aussi sur le fameux BookTok, toute la partie littéraire de TikTok. On vous mettra les références en description, parce que j'ai plus les noms des comptes exactement en tête, mais il y a une nana qui a ce compte qui est très drôle, où elle lit des descriptions de personnages féminins ou de scènes de sexe écrites par des hommes, notamment, où elle dit c'est vraiment la preuve qu'ils n'ont pas la moindre connaissance de comment fonctionne le corps féminin, comment fonctionne le désir féminin ou comment fonctionne le sexe, tout simplement. Je me rappelle qu'elle avait lu un extrait qui disait elle maîtrisait tellement son corps qu'elle a réussi à évacuer tout le flux de ses règles en une seule poussée. Si seulement
c'était
possible.
Même les femmes qui arrivent à maîtriser leur flux, qui font du flux instinctif libre, elles ne le font pas en une fois.
Voilà, ça me rappelle un petit peu tous les bouquins sexo des personnalités politiques françaises aussi, les extraits qui ont été beaucoup commentés sur le net avec le livre de Bruno Le Maire avec ce fameux anneau brun frémissant
pour parler donc de l'anus d'une femme. Et puis le livre de Marlène Schiappa aussi qui sont un problématique dans un autre sens, puisque du coup il est question d'exotisme. En particulier, il y en a un sur l'exotisation des jeunes de banlieue. Donc, en fait, même quand on est une personnalité politique et qu'on est censé avoir un peu plus de bouteilles, on peut écrire des trucs assez problématiques. Ça peut être le cas. Mais en fait, la sexualité et la romance, c'est pas simple comme genre.
Non, c'est pas simple et c'est pas quelque chose qui s'improvise. Moi, je sais que j'ai déjà des anciens partenaires qui m'avaient cité le livre de Marlène Schiappa, « Oser l'amour des grosses ». En disant, oh, mais tu vois, c'est marqué que vous êtes gourmande, donc du coup, vous aimez la fellation. Et j'étais là en mode, non, ça me dégoûte d'entendre ce genre de choses, ce genre de clichés. Il y a un truc dont j'aimerais bien que les auteurs et les autrices prennent conscience, c'est que ce qu'on écrit, c'est des choses qui vont rester pour toujours, surtout maintenant qu'il y a Internet et que tous les livres existent en version numérique. Et que, en particulier quand on s'adresse à un jeune public, c'est hyper important d'avoir conscience de ce qu'on écrit et de la façon dont ça peut être problématique ou non. Bien sûr, les mœurs évoluent, donc il y a des livres qui ont pu être écrits il y a 20 ans qu'on pourrait trouver très problématiques aujourd'hui, au même titre qu'on trouve, par exemple, certains épisodes de Friends ultra problématiques, alors qu'ils n'étaient pas considérés comme tels à l'époque. Mais moi, aujourd'hui, voir des livres qui sont écrits dans les années 2010-2020, où il n'y a pas de question de consentement, où on ne parle pas de contraception, où il y a des violences conjugales qui sont ultra banalisées, je trouve ça vraiment dangereux.
Non, mais ça l'est totalement. Et puis là, on peut se dire, bah du coup, c'est voulu. Il y a pas d'excuse entre guillemets de je ne savais pas ou je n'imagine pas. Je pense que les autrices en général, peut-être, elles ont probablement lu des livres de ce genre-là avant d'écrire le leur. Et vraiment, il en existe plein qui sont très bien. Donc, quand tu fais le choix d'écrire un truc compliqué sur les violences conjugales, par exemple, c'est un truc que t'as décidé. Je pense en particulier au livre de Colleen Hoover, Plus jamais, qui va sortir en 2024 au cinéma, et qui commence comme une romance, qui est complètement une romance assez classique. En plus, c'est vraiment vendu comme ça. C'est un livre avec la couverture, avec des fleurs dessus. Vraiment, c'est très girly. Et où le livre raconte vraiment, mais au premier degré, avec une vraie volonté, comment un couple qui est plutôt beau et romantique devient un couple toxique avec des violences conjugales. Alors évidemment, c'est beaucoup moins sexy et léger que ce à quoi on pourrait s'attendre quand on lit de la romance. Mais ça montre aussi qu'on peut s'attaquer à ces sujets-là, et s'attaquer très bien à ces sujets. sujet-là et respecter son public et son intelligence. Je pense que vraiment, ça vaut le coup de d'aller fouiller, encore une fois. Et là, pour le coup, c'est aussi un best-seller, donc ça montre qu'il y a vraiment une volonté de la part des lectrices d'aller aussi avoir du recul sur ces histoires-là.
Oui, parce qu'on parle de la responsabilité des auteurs et des autrices, mais il y a aussi une grosse part de responsabilité de la part des éditeurs et des éditrices et des maisons d'édition, parce que si ce sont majoritairement des livres problématiques qui sortent, c'est de leur faute aussi, parce que voilà, il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui sont très jeunes, qui sont attirés par l'appât du gain, qui ont écrit des choses pour s'amuser sur Internet et qui finalement se retrouvent avec un deal pour un livre sans forcément savoir ce à quoi ça correspond. Donc voilà, il y a une vraie responsabilité à plein de niveaux, et ce serait bien que on sait que maintenant dans la télé il y a ce super job de coordinatrice d'intimité. Ce serait peut-être bien qu'il y ait des choses comme ça qui se mettent aussi en place dans la littérature.
Bah surtout que normalement il y a des relecteurs et relectrices. En général, elles sont remerciées à la fin des bouquins. Donc ça serait bien qu'effectivement tout le monde un peu fasse son job.
En tout cas, si jamais vous avez des recommandations de livres pour jeunes adultes ou pour moins jeunes adultes que vous trouvez pas problématiques du tout ou intéressants, ou qui évoquent des sujets qui vous parlent, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message à leur sujet ou à en parler en commentaire sur cet épisode de podcast. Nous, ça nous intéresse toujours, on est deux grandes lectrices.
Exactement.
Donc ça pourra peut-être nous donner de la matière pour remplir nos bibliothèques. je pense qu'on peut se quitter sur ces bonnes paroles. C'est encore une fois, on a pu se rendre compte que ces livres font débat, que les films qui sont inspirés par ces livres peuvent faire débat aussi, même si il y a peut-être un travail qui est fait pour les rendre moins problématiques, et c'est une bonne chose parce que ça les rend peut-être un peu plus grand public.
Tout à fait. Merci beaucoup Laetitia, on se retrouve très vite avec un autre sujet sexo. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Laetitia et Lucille présentent Le Sexe est un podcast produit par TDA Prod. Cet épisode a été enregistré au studio Wacked. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.